News FM. News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk. Monte le son.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct sur News FM, je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver pour le troisième numéro d'Open By. Open By, vous commencez à le savoir, c'est votre émission qui vous permettra de répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs? Ouverture d'esprit, partage, bienveillance, curiosité, telles sont nos valeurs. Comme tous les jeudis, pour m'accompagner tout au long de cette émission à la durée désormais indéterminée, Mathilde est avec nous. Salut Mathilde.
Salut.
Comment ça va?
Très bien et toi?
Toujours, toujours. Bon, Mathilde, tu nous fais l'instant narration. Si je résume pour l'instant, on a eu au premier épisode la lapidation d'un couple intercaste en Inde. Deuxième épisode, une fusillade dans un lycée aux États-Unis. Bon, comme dirait Bobby Lapointe, ne serait-il pas temps de mettre dans ton instant narration un petit grain de fantaisie, youpi youpi?
Si, il y en aura un, et cette fois-ci, je vais pas incarner un personnage étranger, je bégaye tellement. Je vais simplement raconter ma véritable histoire. Et ce sera pour la fin de l'émission.
Quel suspense! Avant cela, je vous partagerai également ma vision de l'actualité des médias, ce que l'on appelle familièrement l'instant éloche. La semaine dernière, on a parlé de ces débats qui ne servent à rien, si ce n'est à faire de l'audience. On va continuer, et je vais vous donner quelques tips and tricks pour faire des débats qui vont mettre en lumière certaines idées au détriment d'autres points de vue. Bref, ce soir, clash, débat, ça va castagner sur News FM avec notre invité. Fan d'arts martiaux, il a développé un univers très sombre dans ses clips, bien éloigné du rock de sa chambre d'ado. Il est accompagné de son réalisateur Karim. Il s'appelle lui aussi Amine, mais par commodité, on va l'appeler par son nom de scène, le rappeur Mac avec 2K, et le troisième invité d'Open By sur News FM. Bonsoir Mac, bonsoir Karim.
Bonsoir, bonsoir.
On est hyper heureux de vous accueillir ici. Déjà, comment allez-vous?
Ça va oui. Super.
Ça va, pas trop stressé?
Non, et toi?
Toujours stressé quand je te vois. Le morceau qu'on écoute là s'appelle Until Down.
Oui.
Alors, je vous garantis qu'on va pas rester jusqu'aux aurores ici. Mais ce morceau s'inscrit dans le cadre d'une série plus longue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est?
Alors, je travaille actuellement sur un concept album qui sera une série télé en même temps, diffusée pour l'instant sur YouTube.
Ouais. Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Ouais. Donc, une série de 5 clips qui devraient s'articuler ensemble pour faire une sorte de court-métrage à la fin.
Ouais.
Et chaque chanson est un concept et une histoire qui participe à l'évolution du projet.
Ouais. D'accord, très bien. C'est une très belle présentation. On vous invite à suivre cette série de clips très dark. On va en reparler tout à l'heure, vraiment en détail. J'ai regardé un petit peu ton Instagram. J'ai vu que tu aimais bien les arts martiaux.
Ouais.
Est-ce que tu fais du kung-fu par hasard?
Non.
Non, t'en fais pas. Bah, c'est dommage, parce qu'on aurait pu parler kung-fu. Tu sais, c'est un art chinois qui a une histoire plurimillénaire. Le kung-fu aurait été créé dans les années 600 avant Jésus-Christ. Et surtout, ça aurait fait une transition parfaite pour le portrait chinois qu'on va vous proposer maintenant.
Désolé, alors, j'aurais dû prévoir. J'ai pas pensé à faire du kung-fu avant l'interview.
On va reparler des arts martiaux tout à l'heure. Ne t'inquiète pas.
Ça marche.
Si tu étais une ville, Mac, quelle ville serais-tu?
Utopia.
Utopia. Tu peux expliquer?
Utopia, c'est un concept de Thomas More.
Oui.
Sur une ville utopique idéale.
Ouais.
Et je pense qu'on est tous en construction et qu'on cherche à être la meilleure version de nous-mêmes. Donc du coup, c'est un peu utopique, mais je tendrais vers ça.
Ouais, une ville parfaite où les habitants sont parfaits, ont une attitude parfaite, tout le monde est parfait.
À peu près, ouais.
Eh bah écoute, un jour on trouvera Mathilde.
Si tu étais un personnage de fiction.
Un personnage de fiction? Bonne question. Un personnage de fiction.
À part toi-même dans tes clips, bien sûr.
C'est ce que j'allais dire.
Moi. Je serais moi.
Oh là là,
ouais,
là là.
Ouais, j'en ai pas d'autres.
Ben pourquoi pas, hein.
Ouais, allez, qui c'est qui pourrait m'inspirer comme ça? Je dirais, je sais pas, Harvey Specter dans la série Suits, pour ceux qui connaissent.
Eh ben écoute, je ne connais pas, mais Mathilde, tu connais? Eh ben écoute, dans ce cas, on passe. Les auditeurs connaîtront. Si tu étais une saison.
Une saison?
Oui. Ce portrait chinois n'est pas une franche réussite pour l'instant.
Non mais j'ai... C'est vrai que je me suis pas mis dans ces situations c'est à me dire si ça. T'étais une plante. Une saison, j'en sais rien, je dirais entre le printemps et l'automne, ça va se jouer là.
Ouais.
Ouais, ça dépend des moments en fait. Ou les quatre.
Les quatre saisons, Vivaldi, qu'on ne passera pas ce soir. Mathilde.
On a parlé un tout petit peu de sport avant. Si tu étais un sport.
Un art martial, ouais.
Lequel du coup?
Jiu-Jitsu. Ouais.
D'accord, tu peux expliquer ce que c'est, parce que je pense que
c'est un art martial qui a été inventé par Bruce Lee et, ouais. Et qui prône le être soi-même et l'efficacité en direct, l'expression du corps plus que la technique et les chichis. Voilà.
D'accord, très bien, c'est une très belle explication. Si tu étais une mauvaise habitude.
La clope.
La clope.
Ouais.
Faut arrêter.
Je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Je n'encourage personne à le faire. J'encourage personne à arrêter. Je suis pour la liberté de chacun.
C'est beau ce que tu dis. Mathilde.
Si tu étais un style de musique.
Stoner. Stoner, ouais.
Alors qu'est-ce que c'est le stoner?
Le stoner, c'est un style entre le rock, le blues, à la croisée des chemins. Voilà. Je suis vraiment attiré par ça depuis des années et je trouve que c'est un style qui me correspond bien.
D'accord, très bien. On en fait un petit dernier. Si tu étais un gros mot. Tu peux tout dire, hein.
Il y a peut-être des enfants qui écoutent là.
Mais raison de plus, ça va les éduquer.
Turlu tutu.
Chapeau pointu. Voilà.
Si j'étais un gros mot, je dirais merde.
Merde.
C'est le seul truc que je dis tout le temps. Merde.
Alors, on parlait d'arts martiaux justement. Tu en pratiques depuis longtemps?
Ouais, depuis que je suis petit, ouais.
Ouais. Et t'as continué à en pratiquer? C'est.
Ouais, avec des périodes de où j'ai cuté dans ma vie parce que t'as des activités professionnelles, parce que t'as d'autres ouais. choses qui viennent s'incruster dedans. Et donc, du coup, tu gères tes priorités. Mais oui, ça a toujours été une ligne de fond de ma vie, ouais.
Alors, justement, puisqu'on parlait d'arts martiaux, il y a quelqu'un qui a tenu à te faire une petite dédicace.
Petite dédicace pour Amine. Donc là, c'est le coach qui parle. Oublie pas de revenir à l'entraînement parce que la chanson c'est bien beau, mais ça paye pas et ça prend pas à mettre des pains. Et là, maintenant, c'est l'acteur qui parle. Hâte de te retrouver dans le combat final pour t'éclater la gueule. Et sinon, force à toi, continue ce que tu fais. Franchement, c'est lourd, lourd, lourd. Et le projet, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à ce qui va arriver.
Voilà ça. Tu peux nous dire qui c'est?
C'est Sylvain. C'est Sylvain Roussel qui est coach. Et qui est dans plein de projets et qui est aussi un excellent acteur, qui est l'acteur principal de la série et, ouais. Et un frérot, il n'y a rien à dire là-dessus. Mm-hmm. Et voilà, et après, bon, un peu, je pense qu'il vit un peu dans l'illusion.
Dans l'illusion.
Ouais, parce que s'il pense qu'il peut me toucher, c'est chaud. Sérieux, voilà. Je pense qu'il devrait commencer à envisager une autre carrière, faire des crêpes, l'élevage de chèvres dans le Larzac, une reconversion, je dirais une retraite tranquille, parce que ouais. psychologiquement, ça pourrait être dur. Mais et si je ne m'entraîne pas, mec. C'est que j'attends que vous arriviez au niveau.
Oh, il est déjà un palier. Il attend que les autres.
Ça s'appelle de l'humilité.
Mais c'est très bien. Mais c'est une valeur des arts martiaux.
Non, non. Il est super fort. Et je salue aussi Fabien Mélis.
Ouais.
Qui est aussi un coach personnel et coach de MMA. Et les deux sont de superbes rencontres et de super mecs et de super entraîneurs. Donc du coup, vous pouvez checker leurs réseaux sociaux.
Eh bien, écoute, le message est transmis. On va parler un petit peu de ton parcours dans la musique. Alors déjà, ouais. Mac, avec 2K, pourquoi ce pseudo?
Pourquoi pas?
C'est une réponse un peu facile, ça.
Ouais, parce qu'il y a une grosse inspiration de Machiavelli, parce que il y avait mes initiales dedans, moi ouais. Madame, parce que les 2K, je trouvais que d'un point de vue graphique, ça sortait bien.
Ouais.
Parce que 4 lettres, c'est pas compliqué pour que les gens retiennent. Mm-hmm. Et puis c'est percutant. Et puis ouais, voilà, il doit y avoir un millier d'autres raisons, mais.
Mais toi, quand t'as trouvé ce nom-là, c'était vraiment tes initiales et puis Mac parce que ça sonnait bien.
Ben, au début, j'avais une grosse comparaison avec Tupac dans mes débuts.
Ah.
Donc du coup, c'était.
Ouais, une de tes influences, notamment. Hein.
Ouais. Un mentor.
D'ailleurs, on aura l'occasion de nous faire un petit freestyle dessus tout à l'heure.
Yes.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie? Je crois qu'il est assez atypique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Parcours de vie, non, une vie en fait atypique. Ça dépend si on aime la norme ou pas. Je sais pas s'il y a des règles. Mais mon parcours de vie, gamin de Saint-Martin-d'Hers, d'un quartier ouais. de Saint-Martin-d'Hers, qui a évolué, fait sa scolarité là-bas, mm-hmm. qui a vécu dans ce monde-là, le monde des cités. Et tout ce qui gravite autour, qui a encore des amis là-bas, qui a fait après pas mal de choses dans sa vie, mais surtout ce qu'il avait envie de faire en fait.
Ouais.
Donc du coup,
qu'est-ce que t'avais envie de faire?
Tout.
Tout
vivre. Voir ce que c'était que un être humain, c'est-à-dire que tu te testes par des boulots, tu vas te tester avec tes amitiés, tu vas te tester avec tes rencontres, tu vas te tester avec... des fois, tu vas aller dans les extrêmes et rencontrer des gens qu'il faudrait pas, et des fois, tu vas rencontrer des gens superbes. Et c'est ce parcours-là, en fait, qui te construit. Donc après, le boulot que tu fais, c'est un vecteur. Mes réelles passions, ça a toujours été, du coup, les êtres humains.
Ouais.
Parce que j'ai étudié la psychologie et que c'est une sphère importante de ma vie. Les arts martiaux, parce que je kiffe la philosophie, et puis la musique qui est aussi un exutoire quelque part.
Alors du coup, pourquoi est-ce que à quel moment t'as commencé à faire de la musique vraiment?
Très tôt en fait. Mon père, il m'a inscrit à l'école de musique de Saint-Martin-d'Hères. Je devais avoir 7 ans.
7 ans?
Ouais, donc j'ai commencé par les guitares.
Ouais.
Et ensuite le solfège, le chant et quelques petits instruments autour. Et puis après, ça m'a jamais quitté. Donc parcours, au début je suis guitariste, donc j'écoute du hard rock. Mm-hmm. Après je deviens ado, donc il faut du hard rock. Donc du coup la fan des Guns N' Roses, ouais. Le chapeau melon et on copie Slash, on achète la même gratte et on essaye de faire ça devant la cassette vidéo. Et puis après on fait la rencontre de Tupac et on se rend compte qu'on peut dire des choses en faisant de la musique et qu'on peut toucher les gens et que ça peut être plus profond et qu'on peut se livrer sur le papier.
Oui.
On commence à écrire, on travaille là-dessus et puis d'un coup ça devient un vecteur qui est important et une sorte de thérapie aussi peut-être.
Mathilde.
On en a un tout petit peu parlé pendant le portrait chinois, mais comment est-ce que tu définirais ton style musical?
J'allais dire mon style, c'est pas de style en fait. Ça va être la musique qui va m'inspirer ce que je dois faire dessus. Et ensuite, j'essaye de me laisser aller. Je trouve que toute expression qui est réfléchie, elle devient mécanique. Donc en fait, faut se laisser aller par le flux des idées, l'ambiance du morceau.
Et du coup, après, c'est comme ça que ça vient naturellement.
Ouais, okay. Ouais. Je force jamais les choses, en fait.
D'accord.
Voilà, il faut que la chanson, elle sorte en une traite ou deux. Sinon, pour moi, elle est trop réfléchie. Et je pense que c'est comme si je pouvais te faire un parallèle avec un acteur qui aurait un jeu super forcé, mais qui dirait les bons mots. Et quelqu'un qui va dire ce qu'il pense sur la même situation. Tu vas pas avoir le même impact émotionnel sur les gens. Et moi, ce que je cherche, c'est vraiment avoir ça avec ma musique et pas avoir juste un truc qui bouge ou juste un truc qui sonne bien ou juste dire des bonnes punchlines pour faire bien parce que les gens aiment ça. Voilà. C'est faire comme je le sens par rapport à mon projet principalement, à mes idées et puis à mes émotions et que ça soit raccord dans l'expression de mon art.
Du coup, tu mets ta personnalité dedans un peu.
100%.
100%?
100%.
Okay.
Ouais. Y a rien de fake.
D'accord, très bien. Alors, parle-nous un petit peu de tes références. On a évoqué un petit peu Tupac, tes références musicales et tes références cinématographiques aussi.
Alors, mes références musicales, ouais, principalement Tupac, les Guns N' Roses, ça va être large au niveau de l'éventail. Je surkiffe Sinatra.
Ouais, Frank Sinatra.
Ouais, je suis un très gros fan de Sinatra. Prince, Michael Jackson, en fait tout ce que j'ai pu écouter au long de ma vie en fait, ça va être du Montel Jordan, j'allais dire du R. Kelly, mais maintenant ça fait pas bien de dire j'écoute du R. Kelly. Les gens se cachent pour écouter R. Kelly.
R. Kelly qui, on le rappelle, a eu des petits soucis avec la justice puisqu'il a une certaine tendance à abuser sexuellement des personnes.
Voilà. Ce n'est qu'un détail après.
Du coup, c'est comme Michael, à une époque tu commences à avoir honte de dire j'écoute Michael.
C'est ça.
Et justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit ou tu t'es senti légitime, on va dire, à faire du rap, à te dire j'ai vraiment quelque chose à apporter dans la musique?
Alors j'ai jamais eu la prétention d'apporter quoi que ce soit à la musique.
D'accord.
Voilà. J'ai juste eu le besoin profond de faire ça et de m'exprimer.
Ouais.
Après, ça s'est passé avec des potes sur des freestyles bourrés à Londres et des choses comme ça, des histoires que je vais garder pour moi.
Mais qu'est-ce qu'on accueille ce soir, excusez-moi.
Voilà. Et puis d'un coup, t'as tes potes qui disent « Ah, mais tu rappes ?»
Ouais.
Ah bon ? C'était pas moi, c'était mon jumeau maléfique. Et puis après t'enchaînes.
Ouais.
Et comme t'aimes la musique, t'aimes écrire, tu le fais. Et puis un jour tu rencontres des gens. À l'époque c'était Bastien au Petit Prod.
Ouais.
Et son studio. On a enregistré ensemble d'ailleurs, que je passe un big up. D'autres artistes. Et puis ensuite tu continues à travailler. Ouais.
D'accord. Ok. Oui. C'est bien. C'est une démarche intéressante. Petite question. Si je te parle d'un cirque dans ta jeunesse, à quoi tu penses?
D'un cirque dans ma jeunesse.
Un cirque. Ouais.
Ouais. Je pense que j'ai vécu à une époque dans un cirque, ouais.
Ouais, tu veux nous raconter ?
Ouais. Non, c'était ma copine de l'époque.
Ouais.
Qui était circassienne.
Qui était, pardon ?
Circassienne. C'est les gens qui font du cirque, ouais. C'est pas une maladie. Hein. Et ni une origine. La circassie, ça n'existe pas.
Je pensais que c'était, je sais pas, une fille qui faisait des trucs avec des cerceaux.
Non, pas du tout. Elle est toujours voltigeuse. Elle a une compagnie qui s'appelle Leroux, qui cartonne et qui sont sur Paris là en ce moment.
Ouais.
Mais du coup, le genre d'expérience où tu rentres dans un monde où t'arrives avec plein d'a priori parce que toi t'es un thug du quartier. Voilà. Ouais. Et tu rencontres des mecs en sarouel.
Autre ambiance.
Qui te parlent de bio, voilà, et qui rentrent chez toi comme ça, et tu dis ah ouais, comment ça se passe ici?
Ouais.
C'est quoi les bails, du coup? Et forcément, comme t'es en immersion, t'as pas le choix que d'apprendre à rencontrer ces gens.
Ouais.
Et du coup, tu te rends compte que ces mecs-là, d'un point de vue de leur papadier, ils sont mieux organisés que toi. D'un point de vue de leur famille, ils sont mieux organisés que toi. Que d'un point de vue de leur vie, ils ont fait 10 fois plus de trucs que toi.
Ouais.
Et tu te rends compte à quel point t'as été un gros con, en fait. Voilà, avec tes a priori, ce que tu n'aimais pas qu'on fasse sur toi.
Ouais.
Et ben, en fait, tu le faisais naturellement par tes concepts sociaux de ce que c'est un bonhomme, les clips de rap, les trucs. Et tu les voyais. Et c'était, c'est une super expérience de vie.
T'as fait ça combien de temps?
Pendant plus d'un an, ouais.
Plus d'un an?
Ouais. On a fait la Suisse, l'Allemagne, enfin, pas mal de pays.
Ouais.
Et du coup, je faisais aussi mes concerts en parallèle.
Ouais.
Ça m'a permis de faire, de jouer dans pas mal de pays à l'époque.
T'avais quel style de musique à l'époque?
Ce qu'on a pu écouter tout à l'heure, ouais.
D'accord.
Plus axé West Coast.
D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Et du coup, depuis, ta musique, elle a plutôt évolué, tu dirais?
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait qu'elle a évolué? On va en reparler tout à l'heure plus en détail, mais.
Ben, le fait que je pense qu'il faut vivre un peu aussi avec son temps. Il y a des codes. Il y a ce que j'écoutais, j'ai tendance à faire comme tout le monde. Je pense que j'ai ma playlist nostalgie avec les morceaux que j'écoutais. Moi, j'ai appelé ça la BO de ma vie. Donc, j'ai les morceaux que mes parents me faisaient écouter. Ça peut être aussi pourri que Imagination ou.
C'est pourri, c'est ouais, enfin, chacun son style.
Voilà, c'était les trucs de l'époque. Voilà. Oui, et ensuite, j'ai les morceaux que moi j'ai écoutés et les morceaux que j'écoute actuellement.
D'accord.
Et c'est vrai que les tendances et ce que j'écoute actuellement, on va plus être sur du Travis Scott, sur du Post Malone. Ce genre d'artiste.
Oui.
Et donc, du coup, la transition vers ce style-là, elle me paraissait plus naturelle que rester sur mon style figé, très West Coast, éteint.
Eh ben, ça tombe bien. On va en parler tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on parlait de cirque. Mmh. Et puisqu'on parle de cirque, on va parler du cirque médiatique. Mince, j'ai loupé ma transition.
Pas grave. Vas-y.
En parlant de cirque, on va parler du cirque médiatique actuel dans mon instant Téloche. L'instant Téloche, ma vision de l'actualité des médias. La semaine dernière, je vous expliquais un peu les raisons et les conséquences des clashs à la télé. Comment l'élargissement de la fenêtre d'Overton permettait de mettre en avant certaines idées de la droite pour créer du clash, de la polémique. Mais ces débats ne sont-ils pas en eux-mêmes orientés? Je vais donc vous donner quelques petits tips and tricks, comme je vous le disais dans le sommaire, pour diffuser un certain son de cloche dans un débat. Alors déjà, la première astuce, il suffit de faire un débat entre deux personnes qui sont censées être opposées politiquement, mais qui se révèlent être assez d'accord sur les sujets qu'elles abordent. Ça entretient l'illusion d'un débat contradictoire et que leurs idées représentent donc l'ensemble du spectre des opinions sur la question. Je vous propose un petit extrait assez savoureux du film Les Nouveaux Chiens de Garde, sorti en 2012, réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoa.
Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable.
Faites attention.
Hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien.
Moi, j'irais dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre.
Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques.
Je trouve que Luc a parfaitement raison.
Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation.
Vous êtes en train de lire
le troisième
ce que
point.
Après, il continue pendant 3 minutes, mais on va peut-être pas l'écouter. Mais de manière générale, il y a un certain entre-soi dans les débats. Par exemple, sur France Info, l'émission de débat Les Informés accueille tous les soirs 4 intervenants pour échanger sur les sujets d'actualité du moment. Le problème, c'est que sur le premier semestre de l'année, par exemple, 86% des intervenants sont ou des journalistes, ou des communicants, ou des sondeurs. Et quand on dit journaliste, on pense davantage aux rédacteurs en chef qu'aux reporters sur le terrain. Donc il y a un certain biais sociologique, selon moi, dans la diversité des opinions. Mais parfois, il y a aussi un biais idéologique. Comme sur la chaîne américaine Fox News, oui, l'accent est top, ouvertement conservatrice, où, pour l'illusion d'un débat contradictoire, il y avait une émission présentée par Sean Hannity, un conservateur, et Alan Colmes, un libéral au sens américain du terme, donc censé être de gauche. Mais l'émission renvoie un petit message subliminal, comme le raconte le producteur, un producteur dans le documentaire Outfoxed, réalisé par Robert Greenwald en 2004.
Ils veulent donner l'impression d'être impartiaux, mais il n'en est rien. Dans l'émission Hannity and Colmes, Hannity a un physique avantageux et il joue de son image d'Américain pure souche. Et en face de lui, vous avez ce type maigrichon qui ressemble à un écureuil. Et vous vous dites, c'est lui le type de gauche? Il n'a pas l'air très malin. C'est un contraste qui envoie un message insidieux.
Coucou le petit écureuil de gauche. Coucou, coucou. Bon, en tout cas, allez voir les têtes des deux personnes, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, ça c'est aux États-Unis, mais parfois en France aussi, les débats font intervenir des personnes à l'opinion assez différente. Avec un arbitre du débat qui est censé être neutre, mais qui ne l'est pas forcément. Écoutez cet extrait d'un débat de BFM TV sur l'antisémitisme, où le journaliste et une députée de La République En Marche vont poser la même question en même temps à une élue de la France Insoumise, un extrait repéré par l'association Acrimée.
Pourquoi pas dire tout simplement dénoncer l'antisémitisme? Pourquoi parler tout de suite de l'instrumentalisation de l'antisémitisme? À peine l'acte commis, en fait.
Pourquoi ne pas se contenter d'attaquer l'antisémitisme plutôt?
Mais alors, j'ai posé la question moi-même, merci.
Non mais, oh, c'est qui le journaliste ici, hein? Bon, je vous épargne le reste du face-à-face parce qu'il n'est pas mieux. Mes amis, si on résume. On a donc un entre-soi sociologique et parfois idéologique qui alimente certaines idées dominantes. Une mise en spectacle de certaines opinions divergentes, surtout à la droite de la droite, pour créer du clash et de la polémique, hashtag Éric Zemmour sur LC, et une marginalisation de d'autres idées divergentes. Cet entre-soi et cette mise à l'écart excluent de fait, selon moi, une minorité sociale et parfois ethnique. Ainsi, par exemple, pendant la semaine où il y a eu toutes les polémiques sur les mères qui portaient le foulard lors des sorties scolaires, le site Check News de Libération avait compté plus de 85 débats en une semaine sur les chaînes d'infos, 285 invitations, et parmi les personnes invitées dans les débats, aucune femme voilée. Et donc, on se sent plus à l'aise et on peut littéralement dire n'importe quoi. Expliquer que lorsqu'on voit une femme voilée dans un bus, on descend du bus, une sorte de Rosa Parks à l'envers. Ou même faire un parallèle douteux entre le foulard et une tenue de soldat SS. Bref, maintenant que le point Godwin est atteint, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter avec tous ces débats et toutes ces conneries, de proposer autre chose. Avec d'autres intervenants qui savent de quoi ils parlent. Et une fois n'est pas coutume, avoir un peu d'ambition pour ce 8e art qu'est la télévision. Merci. Mac, est-ce que ça t'inspire une petite réaction sur ce que je viens de dire?
God bless America. Non, je pense que si tu me poses la question, je vais te dire simplement, je pense que tout le monde a le droit de tout dire.
Ouais.
Mais les gens, ils ont le droit de réfléchir aussi.
Ouais.
Voilà. Et donc, les mecs comme Zemmour et certaines autres personnes qui peuvent raconter des conneries 100 fois plus grosses qu'elles à la télé, ou même un mec comme Dieudonné, hein,
ouais.
On peut les mettre tous dans le même sac. Je pense qu'ils devraient avoir le droit de s'exprimer et que les gens devraient avoir le droit de réfléchir et de dire c'est de la merde.
Ouais.
Voilà.
Et t'as le sentiment qu'on met toutes les idées sur les mêmes.
Non, niveaux, j'ai l'impression qu'on prend les gens pour des abrutis, en fait.
Ouais.
Et qu'on essaye de leur dire ça, c'est bien, tu peux penser comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est pas bien.
D'accord.
Voilà. Et en même temps, on te dit. Faut que tu te démerdes dans ta vie, faut que tu fasses une famille, faut que tu construises ta maison, faut que tu fasses des trucs où tu dois t'impliquer en tant qu'être humain. Simplement pour la réflexion, on va gérer ça pour toi. Voilà. Et je pense que les gens sont pas cons.
Ouais.
Et je pense que justement, on devrait peut-être les laisser plus s'exprimer et ensuite virer ces boîtes de sondage à la con qui appellent les 10 000 mêmes personnes du même secteur pour avoir les mêmes réponses.
Yes.
Et qu'on devrait commencer simplement à réfléchir, en fait.
Eh ben, écoute, le message est passé. Karim, tu veux ajouter quelque chose ou pas?
Bah, comme tu as pu le voir, moi je me suis absenté à l'espace d'un instant, ce qui fait que j'ai pas vraiment tout entendu.
Par
désolé.
Rapport sur ce que dit Mac aussi.
Oui, je pense qu'on est exactement toujours les fesses entre deux chaises. J'ai lu quelque chose ce matin qui était assez intéressant, où on disait qu'avant, dans les années 70, c'était un sondage qui était sorti des années 70,
ouais.
On pensait que les gens n'étaient pas cultivés parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. Et alors que maintenant, tout le monde a accès à l'information. Bah, c'est pas pour autant que les gens ils sont non plus super intelligents. J'ai pas vraiment d'avis sur la question en ce sens où je sais même pas quelles sont les problématiques. Je m'occupe absolument pas de ce qui se passe en politique, tout ça. Donc non, honnêtement, je vais te dire, j'ai pas vraiment d'avis à arrêter sur la question. Non.
Bah écoute, en tout cas, c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'il y a pas trop d'infos? C'est l'air de la post-vérité. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder? Mais on n'en parlera pas ce soir.
D'accord.
On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien. Alors Mac, est-ce que tu peux annoncer aux auditeurs de News FM le titre de la chanson que tu as choisi de partager avec eux?
C'est Dedicate de Lil Wayne sur The Carter 5.
On écoute et on en reparle après ensemble, d'accord?
Ouais, ça marche.
Allez, c'est parti. If it wasn't for Wayne, it wouldn't be.
New boo, new subject, new paper, new class, new school. New buddies, new haters, new ass, new boobs. Much later, too soon, too bad, too cool. Too hot, too lit, too hot, too move. Two eyes, too view, but too blind, too bloom. Who lied to you? Two middle fingers that's up high. To whom it may consume, kaboom. Goddamn, who knew that I am the guru with voodoo that sued you? The high hand with shooters that shoot through the iron man and see through the common. And I hear a diamond. I turn a goddamn into a God's plan. Go over the diagram and get to the job, man. Watch for the spy cam. Sit back and watch and do not watch it. Watch and give me some time, man. I am the bomb, man. I am gonna swim till I come out on dry land, not on a frying pan. No, we did not land no Plymouth Rock, but it landed on island. Now I'm just buying land back to the block where they got more rock fans than a fucking rock band. Under a rock, man, we need but rock, man. I do what I can to keep it solid as a, you know what I'm saying, with some rock plan.
You tatted your face and changed the culture.
You changed.
You scream Su-Wu and them gangsters loved you.
Yeah, yeah.
You bought a Bugatti so you could flex.
This shit, you just part of this shit. I'm the heart of this shit, and the heart doesn't skip. Take the heart of your bitch, cause like Bart, you a simp, and your water don't drip, so your garden ain't shit. You just counting the money, I'm drowning in money. Like, where the fuck is the life garden? This bitch, I go Mars in this bitch, watch me orbit and shit. For the art of this shit, Andy Warhol and shit, go retarded this shit. You go sweet, tangy, I go tartar in this shit. I'm a barf in this shit, I'm a marf in this shit. You a orphan, little bitch. If I taught you some shit, that's like Harvard, little bitch. You ain't talking about shit, but you suffer this shit. Walking like you talking, now you walking this shit. I go Marvel moving on some marvelous shit. In the spotlight too long, should be darker than this. Is the Carter, little bitch.
You tatted your face and changed the culture.
You changed.
You screamed Su-Wu and them gangsters
yeah,
loved
yeah,
you.
Yeah, yeah.
You bought a Bugatti so you could flex.
So you can flex.
And most of the bad bitches you is.
I started this shit, they borrowed this shit. I thought of this shit, they thought it was it. I'm dogging this shit, they barking, they sit. Put a fuck in that shit, which drawer to look in? I brought in this shit, the starters get benched. The artists get sent, then targets get hit. Billion dollar smile, I sell myself short if I grin. I'm bargaining then, apartments and shit, I could park in and shit. In a foreign car that I could talk to and shit. With a cultural bitch I can talk to and shit. About the culture and shit, how I altered this shit. Tattoo Su-Wu, Bugatti, Nubu. Tattoo Su-Wu, Bugatti, Nubu. Tattoo Su-Wu, Bugatti, Nubu. All of that shit is the color of the bitch.
You
changed.
Su-Wu.
Bugatti, Nubu. Tattoo Su-Wu, Bugatti, Nubu. Tattoo Su-Wu, Bugatti, Nubu. Don't you?
If it wasn't for Wayne, it wouldn't be.
They might think they've got a pretty good jump shot or a pretty good flow. But our kids can't all aspire to be LeBron or Lil Wayne.
Alors, on retrouve Open By sur News FM. Vous pouvez nous suivre sur le 101.2 FM sur Grenoble et dans le monde entier sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, @openby, pour suivre notre actualité. On continue l'émission, nous sommes toujours avec le rappeur Mac, avec 2K et son réalisateur Karim. Mac, on vient d'écouter Dedicate de Lil Wayne. Pourquoi as-tu choisi ce titre?
Parce que c'est The Originator. C'est lui qui a lancé le style de tout ce qu'on écoute actuellement, en fait.
Ouais,
c'est le premier. C'est-à-dire que toute la tendance qu'il y a aujourd'hui des Blueface, des Trippie Redd, de tous les artistes qui sont influents aujourd'hui dans le domaine du hip-hop, ils sont tous de la même source que Lil Wayne. Il a apporté les tatouages sur le visage, il a apporté la coupe de cheveux Destroy, il a apporté le skateboard, il a tout apporté, et les mecs ont photocopié le style. Voilà. Et ça me fait penser à ce qui s'était passé dans les années 70 avec Bruce Lee, quand il est mort. T'avais la revanche de Bruce Lee de la tombe avec des sosies qui s'appelaient, et ils écrivaient Bruce Lee L.I. ou Bruce Lee Roy, et ils trouvaient des pseudos comme ça, et les mecs étaient des déclinaisons, mais ils n'étaient pas la source du style. Et je pense qu'il faut rendre hommage aux sources. Tupac, il a apporté quelque chose dans le game.
Ouais.
Eminem aussi. Lil Wayne a carrément révolutionné le monde, en fait, avec ça, avec son style.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est une influence pour toi?
Ouais.
Et bah, carrément. Très bien. On va passer à ton bail d'actu de la semaine, le sujet d'actualité que tu as choisi d'aborder avec nous.
Ouais.
Alors, je suis content que tu aies choisi ce sujet, parce qu'il est consensuel, fédérateur, il ne fait absolument polémique nulle part, et surtout pas dans les médias.
Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad, djihad.
Ils parlent tous comme de vrais experts de tous les voiles, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. On dit que les débats sont à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils font mal. Ben faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui se voile, ce serait normal.
Alors, on vient d'écouter un petit extrait de la reprise de Balance ton quoi par les Molem Sisters, des Belges qui sont disponibles sur YouTube. Mac, tu nous as donc demandé de parler de l'islamophobie. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder ce sujet ?
Parce qu'en ce moment, je trouve que c'est la poupée de chiffon qu'on agite pour détourner l'attention des gens, des vrais problèmes de société.
Ouais.
Voilà. Les musulmans, le terrorisme, le voile, c'est générateur de buzz. Donc les gens regardent. Ça crée une espèce de phobie et de paranoïa.
Ouais.
Voilà. Et les gens à côté oublient de regarder ce qui se passe réellement. Pour donner un exemple, illustrer le propos. Aujourd'hui, on parle de 350 morts du terrorisme en France. Ok, c'est grave, il y a des familles qui souffrent, c'est des actes abjects, il n'y a rien à dire là-dessus. Ok, à peu près plus de 600, officiellement, plus de 650 SDF qui sont morts la même année. Voilà, plus de 50 flics qui se suicident, une femme battue qui meurt tous les 3 jours. Et tous ces morts-là comptent vachement moins que ceux du terrorisme, parce que simplement, ça vend plus de papier.
Ouais.
Voilà, et donc du coup... Je pense que l'univers entier, qu'on croit en Dieu ou pas, a conspiré à ce qu'on soit unique. Nos empreintes digitales, notre ADN, nos parents, on peut avoir un frère jumeau et pas avoir la même vie, pas la même conception. Il n'y en aura pas un comme nous avant et pas un comme nous après. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent « faut être tous pareils parce que c'est comme ça que le monde marche ». Sauf que des millions d'années d'évolution leur donnent tort à ces gens.
Ouais.
Voilà. Et il n'y a personne qui calcule ça. C'est-à-dire qu'on se dit « ouais, t'as raison, il faut qu'on reste entre nous ». Parce que c'est comme ça qu'on survivra. Mais c'est pas, c'est fini la préhistoire, les gens. voilà, il y a 7 millions de musulmans en France.
Ouais.
Faire bouger 7 millions, ça va coûter un max de pognon. Venez, on invente la musulmanie, si vous voulez. On crée un territoire. Mais ça changera pas le problème.
Ouais.
Voilà, c'est pas comme ça. Il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont à la pièce. Quelle que soit leur couleur, leur taille, leur religion, leur pratique sexuelle, leur perversion, leur truc. On les prend à la pièce. Si ça te convient dans ta vie, tu le gardes. Si ça ne te convient pas, tu le laisses exister. Et s'il déborde, la justice et la loi française feront le nécessaire.
Ouais.
Voilà. Mais en faisant ce boulot de différence-là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un quartier ou que tu parles à un jeune, voilà, y a un mec qui va lui dire « quoi que tu fasses, t'es pas français ».
Ouais.
Voilà. Tu veux un boulot, tu vas galérer. Il y a eu une enquête qui est sortie. On a mis un prénom français sur un CV, un prénom de femme, joli, une photo jolie. On a mis un arabe, un prénom musulman, et on a mis une femme obèse.
Ouais.
Le mec reçoit 7 réponses sur 10 avec le nom français. La femme jolie en reçoit 9 sur 10.
Ah.
La personne obèse en reçoit 3 sur 10.
Ouais.
Le musulman en reçoit 0 sur 2000 candidatures.
Ah oui.
Voilà où on en est. Ah ouais. Donc du coup, quand on a, moi, mon parcours, par exemple, j'ai fait mon service militaire en France. J'ai combattu en compétition et tout ça pour représenter mon pays. J'ai travaillé, j'ai payé mes impôts et ma famille est ici. Je suis né ici. J'ai pas vraiment de rapport avec un pays du Maghreb, à part par le sang ou par la tradition. Voilà. À un moment, pour trouver un boulot ou pour avancer, on va me poser des problèmes parce qu'on va me dire « t'es pas assez français
».
Donc moi, ça va, parce que je suis adulte et que je vais le gérer, ce truc. J'ai l'habitude. Mais un gamin d'aujourd'hui, le premier con barbu qui va passer le voir et qui va lui dire « Tu vois, tu feras jamais partie de leur clan, viens chez nous, on va te payer un trip en Afghanistan et de toute façon, si tu trouves pas de raison de vivre, on va te trouver une cause pour laquelle t'es prêt à mourir, au moins ça servira à quelque chose. » Aujourd'hui, il y a des mecs qui pensent que parce qu'ils se font péter, ils vont avoir 72 vierges et que le paradis, c'est un bordel. Voilà. On arrive à des situations extrêmes, mais c'est simplement parce que ce communautarisme-là est possible. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils ont besoin d'un sens d'appartenance.
Ouais.
Et si tu n'appartiens pas à une famille, à un pays, à quelque chose, le mec qui va te proposer la panacée, tu vas le suivre parce que tu vas voir des mecs qui te ressemblent. Et ils vont te dire « Ouais, t'as raison, c'est la merde. » Et quand tu vas dans un quartier, t'as des mecs depuis des années qui tiennent le mur et qui vont te dire « Ouais, la France, c'est compliqué, t'as vu, c'est la hesse pour trouver du taf. » Voilà. Et là, t'as un mec qui leur dit, mais non, 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 viens, viens, viens dans la scientologie, viens dans telle secte ou dans tel truc.
Ouais, toi, tu perçois ça comme une secte.
Et puis, moi, pour moi, ça, c'est une secte. Voilà, j'ai grandi dans une famille musulmane qui venait du Maghreb. Mon immeuble entier, on était parqués, c'était que des musulmans. Ouais. Voilà, c'était un immeuble entier. Les femmes portaient le foulard quand elles voulaient. Il n'y avait pas de femmes battues. Les portes, les places, ça s'échangeait. C'était cool. Et le premier truc que mon père me disait, c'est « faut que tu travailles deux fois plus qu'un Français ouais. ». Voilà.
Mais ça, tu sais quoi ? Justement, il y a eu un sondage qui a été fait assez récemment, qui sont critiquables évidemment, et où ils ont interrogé un millier de personnes qui se disaient de confession musulmane. Mmh. Et ce qui était intéressant, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait déjà 40% des musulmans interrogés qui avaient déjà subi, qui déclaraient avoir déjà subi des comportements racistes, des insultes ou des discriminations. Plus majoritairement les femmes musulmanes d'ailleurs, 45%, que les hommes, 35%. Et 23%, un quart d'entre, presque un, près d'un quart d'entre eux, 23%, affirmaient avoir été traités défavorablement. Oula, je bégaye moi ce soir.
Tu vas y arriver.
Je vais y arriver. 23% d'entre eux affirment avoir été traités défavorablement, et je n'y arrive pas ce soir, dans leur carrière à cause de la religion, contre 5% pour l'ensemble des Français. 23%. Et un dernier point qui est intéressant, justement tu disais pour, il faut travailler deux fois plus, il faut faire des études, il faut réussir. Eh bien, la discrimination n'épargne aucune classe sociale puisque 63% des cadres musulmans affirment avoir déjà subi des comportements racistes, contre 34% des ouvriers. Donc, c'est-à-dire finalement, de ce qui est perçu en tout cas, un musulman qui va réussir, qui va travailler, qui va essayer de tout faire pour s'intégrer, va malgré tout être victime de discrimination et d'islamophobie.
Mmh. Et on fait quoi ?
Alors ça je ne sais pas.
Non, le de toute façon, mais les Asiatiques sont victimes de les Noirs, tout le monde en fait, tout celui qui est différent.
Toutes les minorités en fait.
Voilà, et dans toutes les communautés, il y a des Noirs qui aiment pas les Blancs, il y a des Arabes, il y a même des Marocains qui aiment pas les Tunisiens, et les Tunisiens qui aiment pas des Algériens. De toute façon, comme je dis, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Même Dieu qui est censé être parfait, il fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui croient pas en lui. Ouais. Donc il y a pas quelqu'un qui va y arriver sur cette planète. Mais le truc, c'est l'intelligence de prendre les gens à la pièce. Et ensuite, je pense que pour moi, en tout cas, c'est mon avis, ta sexualité et ta religion, ça relève de l'intime.
Ouais.
Tu l'étales pas sur la place publique. Sauf par ton comportement, si ça peut influencer les gens dans le bon sens. Voilà.
D'accord.
S'ils voient que t'es pieux, mais que tu fais tes prières chez toi, ou que en échange, tu respectes ton voisin, t'aides le pauvre, et tu fais des choses bien, c'est ça qui restera à la fin. C'est pas ton étiquette.
Non, bien sûr. Mathilde, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, du coup, tu penses que les choses vont s'arranger si on ouvre un peu notre esprit, si on apporte de l'aide. Enfin, comment est-ce que tu vois que les choses peuvent s'arranger par rapport à ça ?
Non, j'espère, j'y crois pas.
Tu crois pas ?
Non.
C'est triste.
Non, je pense que la solution, elle est là. Mmh. Mais maintenant, je pense que la force de frappe en face, avec les médias, BF Merde.
On embrasse nos amis de BFM TV, puisqu'on ne veut pas de procès, évidemment. Ouais. Vous nous écoutez. Pardon.
Je vous fais deux poutous. Et toutes ces magazines et tous ces gens qui font leur beurre de ça, voilà. Il y a une théorie, en fait, simple psychologie, que je te disais tout à l'heure que c'était aussi une de mes passions. En 1929, quand il y a eu la crise, les journaux ont commencé à titrer que c'était la crise et que c'était un mouvement de panique et que des gens se défenestraient et tout ça. Ouais. C'est la période où la presse papier a le plus vendu de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et là, les marketeurs ont compris le commerce de la peur. Et ils se sont dit, ton cerveau, quand tout va bien, il calcule pas. Mais quand ça fait peur, il va regarder parce qu'il veut ta survie. Ouais. Donc on va capitaliser là-dessus. Et on nous fait des titres sensationnels à tous les niveaux en nous disant, voilà, le terrorisme, le djihad, nanana, nanana, nanana. Les gens flippent et c'est leur peur qui fait faire des conneries. Voilà, c'est juste ça. Et si on arrive à enlever cette peur-là, et qu'on va rencontrer les gens, un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure dans le ciel, et que tu, limite, t'as pas le choix, parce que de toute façon, il faut qu'ils comprennent qu'on va pas bouger. Mm-hmm. C'est mort. Voilà, on a fait nos familles ici, on a nos enfants ici, on a tout le monde. C'est trop compliqué. Ouais. La CAF donne pas assez d'aide au déménagement. Voilà. Donc on va pas pouvoir gérer ça, les gars. Je suis désolé. On se réunit tous les musulmans, on se réunit tous les mardis, on en parle.
On met les appels.
On n'a pas de solution. On n'a pas de solution là, les gars. On voulait même faire des tombolas et vendre du couscous, mais ça suffira pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est plus sérieusement que voilà, il faut que les gens acceptent ça et aillent à la rencontre de l'autre et laissent tomber leur peur. Le problème, c'est que la force de frappe en face est conséquente.
Ouais.
Voilà. Elle peut être justifiée par des abrutis qui justement font des actes horribles.
Bien sûr.
Voilà. Et qui alimentent ça. Mais derrière, il faut que nous, notre communication, elle soit un peu plus pacifiste, un peu plus apaisée.
Ouais.
Et qu'on se rende compte que le problème de la France, c'est pas les musulmans.
Oui, bien sûr.
Les gilets jaunes, ils ont rien contre les musulmans. Hein. Mm-hmm.
Une crise sociale, mais on n'en parle pas.
Ils sont là depuis un an dans la rue toutes les semaines. Hein. Mm-hmm. Voilà.
C'est vrai. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Mathilde, on va pas passer le son de Pascal Bruckner parce qu'on s'en fout. Et moi, ce que je pense, c'est que ce rejet ou cette peur de l'islam, c'est évidemment regrettable. Cette peur de l'islam. Alors que tes clips, eux, ils font vraiment flipper, mais pour une toute autre raison, et on va reparler de tes clips.
Ça marche.
Alors là, on est en train d'écouter Overload.
Yes.
Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau ?
Overload, c'est un crash test de mise. Quand on a établi le projet avec Karim, oui. On avait l'atmosphère, on connaissait l'histoire à peu près de ce qu'on allait faire, parce qu'on a des influences communes. Et du coup, l'idée d'Overload, c'était de positionner le personnage, voir comment le public rap allait réagir à ça. Parce que je voulais être totalement en dehors des concepts, des belles gonzesses, belles bagnoles, le 50 mecs du quartier qui font des roues arrière.
Alors, allez voir le clip sur YouTube, c'est très 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 différent.
Ouais,
voilà.
C'est sûr.
Voilà. Donc je sais que c'est peut-être une niche, c'est peut-être un certain public qui va regarder ça visuellement, mm-hmm. parce que les jeunes de maintenant, c'est pas forcément leur truc.
Tu peux le décrire un petit peu peut-être, tes clips
Des combles, des poupées. Des poupées décapitées que j'ai retrouvées dans un vieux château et qui doivent dater des années 40. Un mec qui revient à revenant,
ouais.
Donc qui est un peu paumé. Par contre, au niveau du lyrics, du swag, des punchlines, un peu en décalage avec justement l'univers.
Ouais.
Mais c'était ce côté un peu schizophrène et surtout test. On va le faire.
La réaction du public.
Et on va le mettre en place.
Ouais.
Et puis on va nous scaler sur le projet, sur la colorimétrie, sur le scénario, sur voilà. Et du coup, Overload est né comme ça.
D'accord, Mathilde.
J'ai une question. C'est quel thème que tu abordes là-dedans?
Dans tes lyrics,
en général.
tu parles sur le concept ou sur le morceau?
Sur le morceau.
Sur ce morceau-là?
Ouais.
C'est du swag. Ça parle de tout et de n'importe quoi. Il peut y avoir de l'ego trip, comme ça peut parler de cul, comme ça peut parler de plein de choses en fait dans ce morceau.
C'est assez ouvert quoi.
Ouais.
Okay.
Ouais, c'est open bar. Chacun pique sa punchline.
C'est open
bar.
Open
voilà.
Bar, oui.
Bim, zéro pour le monde. Et dans le projet plus généralement, dans la série de manière plus générale,
ça parle d'amour, de deal qu'on peut regretter, de jalousie, de vengeance.
Plus concrètement, c'est quoi l'histoire?
Je peux pas. Je vais pas spoiler en fait. Voilà.
D'accord.
Je peux spoiler. Je peux spoiler Until Dawn.
Vas-y, voilà. Spoiler Until Dawn.
L'histoire,
c'est qu'on a écouté au début de l'émission.
Un couple qui sont assassinés.
Oui.
Par Sylvain d'ailleurs. Voilà. Qu'on a eu tout à l'heure. Et le mec revient, donc c'est moi, Mike, pour le coup, revient d'entre les morts pour se venger et abattre les meurtriers qui l'ont abattu, lui et ouais. sa copine. Voilà.
Ne serait-ce pas inspiré d'un film que tu aimes bien qui s'appelle The Crow?
À 3000%.
À 3000%, ouais.
Ouais, j'assume totalement. J'assume totalement. Parce que pour moi, c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues au cinéma.
Ouais.
Voilà.
Alors, tu peux peut-être raconter l'histoire de The Crow? Tu peux nous la raconter?
C'est Eric Draven et Shelley Webster, un couple.
Ah.
Qui décide de se marier la veille d'Halloween et elle avait fait signer une pétition aux gens du quartier pour éviter les expulsions. Et le big boss de la ville décide de la faire abattre, sauf que son copain est là et il se fait défenestrer du 6e étage. Et elle se fait violer et elle passe 30 heures à l'hôpital avant de mourir. Et un an après, un corbeau ramène Eric pour qu'il se venge.
Ouais. Et il va se venger et il va tuer toutes les personnes qui sont responsables.
Et c'est un film
crime horrible.
Particulier puisque le fils de Bruce Lee, du coup Brandon Lee, est mort pendant le tournage parce qu'il s'est fait tirer dessus à balles réelles lors d'une scène.
D'accord.
Donc il était encore plus marqué d'émotion parce que le mec est vraiment mort dedans.
Ouais. Et toi, ça te fait vraiment penser, ça fait Bruce Lee, Brandon Lee, ça fait aussi écho.
Bah, il y a cet écho-là et puis il y a surtout le concept que les choses vraies, les sentiments vrais peuvent dépasser la mort.
Mm-hmm.
Voilà. Et ce que j'aime, c'est ce concept-là, de se dire que tu vas laisser quelque chose après ta mort, et ça peut être ou de l'amour ou de la haine, mais dans tous les cas de figure, le dossier devra être conclu d'une façon. Voilà.
D'accord.
Et j'aime bien cette idée-là.
T'aimes bien cette idée de complétude, de clôturer un chapitre.
Ouais.
Et justement, alors les questions peut-être plus pour Karim. Comment, du coup, tu réalises les clips de Mac, si j'ai bien compris. Comment est-ce que cette idée-là, comment est-ce que tu la mets en scène? Comment est-ce que vous travaillez sur la mise en scène, justement, de ces clips-là?
C'était assez facile et assez difficile en même temps, si tu veux. T'as toujours le cul entre deux chaises, parce que autant je le connais depuis des années et qu'on a déjà eu la thématique commune qu'on développera au fur et à mesure, qui n'est pas forcément celle qu'on imagine, mais cette thématique de, qui est chère à Amine, hein, celle de The Crow, un mélange entre The Crow et Joker. Pour revenir à ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'on avait vraiment à la base cette histoire de « on va provoquer la réaction du public ». Je pense qu'on l'a fait tel que c'est venu.
Ouais.
Et de manière globale, une belle œuvre, c'est une œuvre qui t'appartient pas. Tu commences à creuser, c'est un peu comme les paléontologues. C'est-à-dire que tu vas creuser un endroit et puis t'as un squelette de dinosaure. Et puis tu la découvres, mais en fait, c'est pas toi qui l'as créé.
Ouais.
Et quand t'es sur une bonne idée, tu vas filmer, ou ça marche également sur la musique ou sur la peinture, hein, de manière globale, et tu vas révéler la chose.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as l'impression que cette œuvre échappe complètement,
ouais,
où l'histoire se crée d'elle-même, et Dieu sait que c'est une sensation qu'on n'a pas eue qu'une seule fois quand on a commencé à créer les choses. Tu sais, quand on a commencé à faire le clip, on savait en gros où on allait, on savait d'où on partait,
ouais,
mais on ne savait pas exactement quel chemin on allait prendre.
D'accord.
Et quelles allaient être les personnes qu'on allait rencontrer, etc. Et c'est super intéressant, ouais, parce que quelque part, c'est un projet qu'on a, mais c'est un projet qu'on a un petit peu comme un cheval sauvage. Tu vois, on l'a là, on l'a un petit peu apprivoisé, mais il va un petit peu aller à des endroits qui vont... c'est lui qui va nous dire exactement ce qu'on va faire à la fin.
C'est lui le cheval, c'est un peu de l'entraînement.
Bien qu'on sache exactement, je pense, où on veut aller,
ouais,
quelle va être la thématique principale, mais on est en train de créer un... C'est un paradigme. C'est vraiment un gros paradigme. On veut se soustraire aux archétypes, oui, habituels. On veut vraiment pas ressembler aux choses qui se font actuellement. Et on va surtout mettre tous les mélanges de toutes les cultures qu'on a maintenant à 40 ans, mm-hmm, qui servent tout ça.
Et bien justement, puisque tu parlais de mélange de cultures, Karim, toi tu fais aussi du ukulélé sur YouTube ?
Non.
Non, c'est pas vrai ?
T'as trouvé fake ça news ? Où
Sur YouTube, justement. Un petit partage de The Real Max sur Facebook, astucieusement. Passer du ukulélé à l'univers de Max, c'est pas trop difficile ?
Ben, je fais peut-être du ukulélé en dehors de ce que je fais d'habitude aussi.
Mon Dieu, quelle infamie.
Je plaisante.
Mais justement, puisqu'on parle d'instruments à cordes, du ukulélé, je vous propose à tous les deux, et aux auditeurs aussi, d'écouter ceci. On en reparle après. Ça vous parle un peu ?
Ouais.
Tu peux nous expliquer ?
Robert Johnson.
Évidemment.
Ouais.
Tu peux nous raconter son histoire ?
La légende du crossroad.
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
En même temps que lui, c'est chaud. Robert Johnson, c'est une histoire de dingue. C'est un bluesman raté.
Ouais.
La risée de son village. Le mec qui sait pas jouer de la guitare, qui se fait ridiculiser à chaque fois qu'il prend le micro ou qu'il touche une guitare et qui essaye d'aller sur scène. Et puis un jour, il disparaît. Et il revient quelques temps après. Super bien sapé, avec une guitare qui coûte une fortune.
Ouais.
Et il sort le premier album de blues enregistré par un black à l'époque,
mm-hmm,
de 12 chansons, et à la 13e il a disparu. Voilà. Et quand on demande pourquoi, il a raconté qu'il était allé à un carrefour dans le nouveau Mississippi, qu'il avait rencontré le diable et qu'il devait jouer, qu'il lui a demandé en échange de savoir jouer de la guitare 12 morceaux. Donc du coup, le diable lui a appris à jouer de la guitare, il est revenu, il a fait son parcours, il a enregistré ses 12 morceaux, enfin ses 13 morceaux.
Ses 13 morceaux, donc, ouais.
Et le 13e, quand il l'a enregistré, il a disparu.
C'est une histoire... Karim.
Et si je peux me permettre, moi perso, mais je pense qu'Amine c'est pareil, c'est peut-être le centre de notre réflexion quand on crée la série, parce que c'est quelque chose qui peut être développé de milliers de manières différentes, mais pour arriver toujours, et encore une fois, je vais ressortir ce mot qui décidément... J'apprivoise ce soir, paradigme. C'est une base de réflexion très intéressante qui a déjà été employée par le passé dans plein d'autres délires. Mais moi, ça me plaît beaucoup et ça nous plaît beaucoup. Et surtout, on a un projet commun secret là-dessus.
Ouais.
Un projet commun secret ?
Ouais, plus tard.
Mais j'espère qu'on le saura bientôt.
J'aime bien le concept de. C'est quelque chose que tu sais pas.
Ouh là là,
ça je peux pas
peur.
Te le dire.
Mais du coup, les auditeurs ne le sauront pas non plus, c'est dommage.
Non. Mais justement, vous restez branchés sur 101.2 toute votre vie. Ça tombera un jour.
Tous les jours. D'ailleurs, puisqu'on va pas se mentir, hein, du coup, on a été présenté par Farid, qui dirige la radio de News FM, qui nous a expliqué que tu préparais aussi un petit projet de podcast.
Ah ok, on en parle ce soir, ouais.
C'est comme tu le sens, si tu veux en parler, si tu veux pas en parler. Alors, il n'y a pas de piège, hein. C'est comme tu le sens.
Déjà merci Farid, qui est un homme exceptionnel pour ce qu'il fait pour les artistes de la région et avec la radio et depuis des années. Et il s'accroche et c'est pas évident.
Et on le salue et on l'embrasse.
Voilà. Et donc du coup, la ville de Fontaine sortait un peu, hein, quelques bifetons. Ça fera pas de mal. Un petit coup de pouce, c'est important. Et du coup, ouais, on a parlé d'un projet de podcast. Moi je suis un très gros fan d'un podcast américain qui s'appelle Joe Rogan Experience. Je sais pas si tu connais.
Absolument pas.
Qui est un podcast où en fait c'est un mec qui est présentateur de The Cure Burn bien. qui est présentateur.
Non, ça, tu passes en fond,
voilà, qui est présentateur de l'UFC, qui est aussi pratiquant d'art martial, ouais. qui a été présentateur de Fear Factor et qui a ce podcast là qui fait aujourd'hui 6,3 millions d'abonnés, je crois.
Ouais.
Et des millions de téléchargements. Et en fait, il reçoit des invités super connus. Ça peut être Elon Musk, ça peut être Neil deGrasse Tyson, ça peut être des célébrités américaines.
Ouais.
Mais par contre, c'est une conversation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions sur leur boulot.
Ah, d'accord. C'est vraiment que...
Non, c'est une conversation détendue. Ouais. Et on filme ça. Et ça peut parler des mecs qui pensent que la Terre est plate, au créationnisme, en rebondissant par le fait de ce que je disais tout à l'heure à Karim, que j'avais découvert que si les vaches mangeaient des algues, elles produisaient moins de méthane. Et, et ensuite, il y a des études et des choses comme ça. Et on parle de tous ces sujets-là dans une discussion. Ça peut être la vie de famille, comment la personne gère et son emploi du temps et ses enfants et son rythme de vie. Voilà, avoir une discussion ouverte avec des gens.
Et toi, tu veux construire ça, toi ?
Ouais, je voudrais construire ça parce que je pense qu'on a des gens super intéressants,
oui.
Mais qu'on a tendance à les voir toujours par une facette. C'est-à-dire que c'est encore une fois un de mes concepts.
Non, bien sûr.
Mais... on te dit, quand t'es petit, qu'est-ce que tu veux être dans la vie ? Et toi, tu vas dire, je veux être médecin, je veux être avocat. Et ton identité, elle se construit sur ce que tu fais.
Mm-hmm. Et pas sur ce que tu
Parce que quand les gens te disent, ouais, tu fais quoi ? T'es obligé de dire ton boulot.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Sinon, on va te dire, t'es chirurgien. Et dans leur tête, c'est, tu gagnes bien, t'as une belle maison, t'as pas d'emmerde. Et moi, je veux que les gens, en fait, rencontrent ces gens-là, mais sous un autre côté.
Ouais.
Et qu'ils comprennent comment ils vivent, comment ils pensent sur des sujets différents. Et justement, avoir leur... Parce que c'est ce côté-là qui étoffe leur côté pro.
D'accord. Ouais.
Voilà. C'est comment ils gèrent cet équilibre-là.
Et comprendre qui ils sont pour
leur connaissance, ce qui les intéresse. C'est ça qui crée ce qu'ils sont aussi au boulot.
D'accord.
Donc du coup, les découvrir comme ça et on va essayer de mettre ça en place avec Farid. Voilà.
D'accord. Bah, j'espère que ça va se faire. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est vraiment quelque chose qui a l'air différent, en tout cas, de ce qu'on peut entendre, actuellement. D'autres projets en cours dont tu veux nous parler ou pas ?
Alors, je prévois de créer une yourte pour avoir du lait de brebis frais le matin.
C'est écolo.
Non, vrai, avec ma copine, on en parle régulièrement.
Ouais, ah.
On est sur le lait de brebis frais le matin. en ce moment.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Mais attends, je me livre.
Mais c'est bien, c'est bien.
Je me livre, voilà. des projets, un projet de finir et avancer sur Overload et sur la série Resurrection qu'on est en train de tourner.
Elle va s'étaler sur combien de temps, la série ?
Alors, pour l'instant, on parle de 5 épisodes.
Ouais.
Et où ça sera la mid-season, où ça sera la saison complète 1.
D'accord.
Voilà. Et pour avoir un format entre 20-25 minutes, une demi-heure pour le court-métrage.
Voilà. D'accord.
Et entre chaque clip, on va articuler aussi des focus sur des situations qui sont passées ou sur des personnages et qui seront vraiment sous la forme de court-métrage coup-ci scénarisé.
Oui, clips.
Entre les clips. Pour
d'accord.
Faire patienter les gens aussi et puis pour étoffer l'histoire et que ça. Parce que c'est une vraie série, donc il y a des rebondissements, il y a des choses, voilà.
Et ça se tellera sur combien de temps ? On sait pour l'instant ?
Pour l'instant, au rythme, avec le temps qu'on a avec Karim, je pense que ça va 15 ans.
Oui, mais 15 belles années.
On a tablé sur 15 ans, voilà.
Ouais.
Je risque de rapper avec, avec mon velouté à côté. dis donc. Non, on prévoit de faire ça sur un an.
Bah après, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
Si c'était des gens qui faisaient ça à plein temps, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais on se sert aussi des saisons, si tu veux, avec les mêmes arbres qu'on va filmer, qui une fois ont des feuilles. C'est vraiment, vraiment très, très long à faire.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a une idée derrière, un fil rouge que vous ne voyez peut-être pas.
Qu'on ne voit pas encore, mais qu'on verra sûrement au fil des épisodes.
Oh, je l'espère.
Et si je peux dire quelque chose, vraiment un petit message, c'est vraiment que c'est très, très soigné. La musique est très soignée, la réalisation est très soignée. Donc vraiment, pour ça, bravo à vous et je vous incite vraiment
merci
à aller
confirme.
Jeter un petit coup d'œil à la chaîne YouTube The Real Mac avec 2K.
C'est ça, The Only One.
Alors, on l'a vu, votre univers, ton univers, Mac, est assez dark, assez glauque, qui fait un peu peur, des poupées, des décapités. Mais il y a un autre sujet qui réjouit bon nombre d'enfants et qui terrifie encore plus de parents. Et c'est la chaîne YouTube de Topito qui nous en parlait hier.
Marie est maman et Marie a peur. La Reine des Neiges 2 vient de sortir au cinéma et Marie va devoir aller le voir deux fois. Trois fois au cinéma, puis dans 6 mois à la télé, sur le téléphone, la tablette. Au final, dans les 2 prochaines années, elle va le voir près de 100 fois. Oh, elle pensait en avoir fini avec la neige, avec les princesses, avec les chansons à la con qui restent en tête, mais ce n'est que le début.
Ce n'est que le début, car maintenant, il y a l'instant narration de Mathilde. Librement inspirée de l'histoire de la Reine des Neiges 2 et de sa vraie vie. Mathilde, tu as la parole maintenant pour ton instant narration.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je me réjouis d'être ce soir dans les locaux de News FM et sur la radio Open By pour vous raconter mon histoire. Cette fois-ci, je ne vais pas incarner un personnage étranger, je vais simplement vous raconter ma véritable histoire. C'est assez marquant puisque un nouveau film vient de sortir, comme on l'a dit, au cinéma, qui est connu sous le nom de La Reine des Neiges 2, cette fois-ci. Ceux qui auront survécu à La Reine des Neiges 1 vont devoir surmonter la nouvelle vague de petites filles voulant ressembler à Elsa et à sa sœur Anna. J'ai pu me renseigner quelque peu sur la deuxième histoire de ces sœurs princesses, et, outre le fait que je ressemble fortement à l'une des deux, j'ai pu remarquer quelques points communs concernant leurs aventures et celles que j'ai vécues avec une de mes amies. En effet, l'été dernier, j'ai décidé de partir avec mon amie dans les profondeurs des Highlands d'Écosse. Nous avions déterminé un itinéraire qui mêlait à la fois la ville et la campagne désolée. Nous étions plongés dans cette aventure parce que nous étions admirative face à l'acteur principal de Outlander, Jamie. Nous voulions aller voir de plus près ce qui se passait réellement en Écosse. J'ai une anecdote à vous raconter qui surprendra sûrement plus d'un. Nous avions emprunté l'ancienne route militaire, plus connue sous le nom de West Highland Way. Ensuite, nous avions pris le train d'Harry Potter et le ferry pour rejoindre l'île de Skye. Nos parents étaient restés un peu dubitatifs, constatant la difficulté évidente de notre parcours dans l'Highland. Mais nous les avions rassurés en leur disant que tout allait bien se passer. Enfin, du moins, c'est ce que nous pensions. Mon ami voulait aller voir un lieu connu là-bas avec des fontaines qui promettaient de très belles photos. Ne voulant pas faire comme les autres, nous sommes partis à gauche au lieu d'aller à droite. Nous avons marché 1 heure, 2 heures, 3 heures. Nous commencions à chanter des musiques Disney pour nous motiver à avancer. Mais on s'est très vite rendu compte que nous étions sur le mauvais chemin. Nous avons décidé de nous asseoir sur un rocher à côté pour manger. Le problème était que nous n'avions plus de gaz pour faire chauffer notre repas, qui était d'ailleurs immangeable sans cela. C'est avec cependant détermination que nous avons décidé de quitter le sentier pour nous diriger vers une rivière dangereusement agitée par les cours d'eau déferlant la pente. Nous étions tentés de la traverser avec l'aide des rochers noirs laissant timidement deviner leur présence. Mais, face au risque évident de tomber dans ces rapides, nous avons décidé de prendre quelques instants pour relire la carte. Malgré un nuage de brume épaisse menaçant de nous faire disparaître, nous continuons à chercher notre chemin. Le nuage n'osait plus avancer sur nous de peur de nous faire freiner dans notre progression. Nous avons alors fait demi-tour et nous avons marché avec conviction tout en nous enfonçant dans les mares de boue, des flaques d'eau se trouvant être très profondes et en escaladant les irrégularités du terrain. Nous étions très contentes de retourner au point de départ pour manger dans un hôtel, non loin, qui allait nous donner des forces pour pouvoir repartir en confiance. Même si le temps nous était imparti et était désormais compté, nous sommes repartis en direction du site et avons marché quelques centaines de mètres, tout en croisant des locaux habillés en tenue traditionnelle, avant de nous arrêter. Nous nous sommes assises au bord d'un petit lac qui surplombait une partie de la campagne des Highlands. Nous pouvions voir dans la limite de la brume le terrain vallonné d'un vert sombre se dérouler sous nos yeux. On avait alors ce sentiment de solitude si particulier qui nous prend lorsque nous sommes seuls ainsi dans la nature. On se sentait apaisé, légère, mais étrangère aussi dans ce paysage si unique. Aujourd'hui, j'aimerais retourner dans certains de ces lieux qui abritent l'Écosse au plus profond de son pays, puisqu'on s'y sent comme chez nous. Les gens sont aimables et ouverts pour toute information. J'ai pu remarquer que chez les princesses Disney, surtout actuelles, Il y a beaucoup de différences par rapport à celles que j'ai connues étant petite. Aujourd'hui, elles osent l'aventure. Elles sont courageuses, déterminées et sont prêtes à affronter des dangers, à tel point que leurs compagnons de voyage hommes, pour certains, sont plus là à tenter de les suivre dans leurs idées folles que les porter comme des princesses au château de contes de fées. Je peux citer Vaiana, ou bien d'autres filles qui réalisent leurs rêves en travaillant dur et en se battant contre ceux et celles qui veulent leur échec. J'ai nommé Ballerina, danseuse classique de l'Opéra de Paris. Comme dirait mon père, derrière chaque idée, il y a un chemin.
Et merci Mathilde pour ton instant narration.
Merci à vous pour votre attention.
Non, très bien.
Une petite réaction, Mike, Karen.
Ouais, alors Moana pour te dire Vaiana. Tu sais pourquoi ils l'ont appelée Vaiana en France alors que le titre original est Moana? C'est parce qu'il existe une actrice de charme italienne qui porte le même nom. Et vu que les pays sont frontaliers, ils ont dû changer le nom en Italie et en France. Et c'est pas vrai, s'il n'y avait pas Maui, elle aurait jamais réussi à redonner le cœur de l'océan à Tefiti.
Mathilde n'est pas
convaincue. On peut en débattre. Hein.
D'accord. Et passionnant. Hein.
Bah passionnant, mais c'est bien de passer.
Et c'est
de
la même avec Isabelle et la Bête, ils ne sont pas trompés d'une lettre.
Sur... Je ne l'ai pas vu.
Oh là là là. Les enfants, c'est une émission familiale, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Bon, pour terminer l'émission, vous allez bosser, surtout toi, Mac.
Ouais.
Est-ce que tu ne nous offrirais pas un petit freestyle
comme
pour
ça,
terminer
direct,
cette émission? Bah écoute, comme tu le sens. On va te mettre une petite instru de
Tupac. On va faire un petit hommage.
On te laisse t'installer, on te laisse décaler la chaise.
Dis-nous quand c'est bon.
Est-ce que tu es tout, quand tu es tout prêt, on va mettre ça en place.
The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pee.
Mac, News FM, we go live. To all my homie and my homeboy listening to this. We here? Hey. Pa. Yeah. Give me my monies and stacks and let my bitches with nine figures. Real niggas, little niggas, playing the nine triggers. Now see my enemies defeated. I'm touching where they coked up and weeded. Open fire, now the niggas bleeding. See you in flesh and test and get your chest blow. Straight out the west, don't get blown. My adversary cry like hope, open and shut like door. If you're a friend or foe, nigga, you ain't knowing. They got me stressed out on their throat. I've seen money, but baby, I got to get more. You scream and go with the Mac, but I ain't stopping till I wear space. Bare space, nah, nigga, look what hell means. Visions of cops and sirens, niggas open fire, bunch of third life, niggas on the rise until I die. Ask me why I'm a boss player getting hot. And when I'm rolling by, nigga can't see me. Ha! Pop, 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 pop! Use FM, we here! Ha ha
ha! Du coup, j'applaudis tout ça, donc ça fait pas le même effet, mais.
Bah,
les auditeurs sont en train d'applaudir chez eux dans leur voiture.
J'espère,
j'en
sais rien.
Il y a certains qui étaient au volant de leur voiture comme ça qui vont faire provoquer des accidents, ce qui n'arrangera pas la situation de la rocade de Grenoble.
Non, non, drive safe.
En tout cas, bravo, c'était un très, 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 très beau freestyle.
Merci beaucoup.
Vraiment, bravo. Tout filmé par son réalisateur Karim.
Ouais.
Du coup, comme ça, on récupérera la vidéo et on la mettra très prochainement sur nos réseaux sociaux et sur vos réseaux sociaux aussi. A fortiori.
Ouais. Et si je peux juste, je serais pas un vrai rappeur si je faisais pas des big up.
Alors, fais des big up.
Donc, déjà, on va faire un big up à tous ceux qui ont participé au clip et au projet. Déborah, qui est l'actrice, Fabien Mélis, que vous pouvez encore retrouver sur Facebook, ou CoachFab38 sur Instagram, Sylvain Roussel sur Facebook, avec sur YouTube avec sa chaîne, et Coach Big Sly sur Instagram, à suivre aussi, Ghislain, Karim, même s'il est là, on lui fait un big up, Sophie, ma copine Céline, ma filleule, sa sœur, donc Carla, Jade, mes neveux, Yanis et Noam, et tous les gens qui participent de près ou de loin et qui soutiennent le projet et qui nous suivent dans cette aventure-là. Voilà.
Bah écoute, c'est une très très belle aventure et on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, et parmi les auditeurs aussi, à vous suivre et à suivre vos aventures.
Ouais, The Real Mac.
The Real Mac sur tous les réseaux
comme
sociaux.
Comme ça se prononce pour les Américains. Pour les Français, c'est The Real Mac.
T'es réel, Mac. Bon, en tout cas, merci à vous deux. J'espère que vous avez passé un bon moment.
C'était un plaisir.
Un plaisir, vraiment. Merci à toi Mathilde, à la technique, gros travail ce soir avec Freestyle, merci. Avec autre chose, t'as assuré.
Merci.
Merci à toutes les équipes de News FM, merci à Farid pour nous avoir mis en lien avec vous deux. Ouais. Vraiment, très très bonne...
J'ai dit big up au boss.
Big up au boss. De toute façon,
tu veux garder ta place.
Évidemment, big un petit peu de lâche, ça fait pas de mal. Mais comme je ne suis pas payé, l'enjeu n'est pas le même. Merci aux auditeurs pour votre confiance. On embrasse Ephrasis, qui était notre premier invité, qui est actuellement en concert à Vienne. Bisous frérot, bisous aussi à Mathis, qui est notre second invité, qui organise la finale du prix Barnab le 11 décembre, je crois.
C'est ça.
C'est le concours d'éloquence de Sciences Po. Alors, on est en replay sur le site internet de News FM, sur vos applis de podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @openby. On vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plein, pendant que les 27 secondes de la chanson se terminent. On a encore un petit peu de temps. En tout cas, on vous souhaite une très très belle soirée sur News FM et restez à l'écoute. Et à la semaine prochaine!